Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Nous allons lire les versets 17 à 26. Matthieu, chapitre 5. Nous commençons la lecture au verset 17. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Voici donc la parole de Dieu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, « Raca », mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, « Insensé », mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te l'ai dit en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Et c'est la parole de Dieu. Nous poursuivons donc notre étude de cet évangile de Matthieu. Et après avoir parlé du caractère du disciple, des conséquences, des résultats de ce caractère, le Seigneur Jésus-Christ va aborder différents points pour souligner ce qui doit être la motivation du disciple. Mais mettons les choses dans leur contexte. Et le premier point, dans les premiers versets de ce passage que nous avons lu, c'est le Seigneur Jésus-Christ et la loi. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ était parfaitement juste, mais il a déconcerté ses contemporains. Bien sûr, il était évidemment un enseignant, même un rabbin, parce qu'il rassemblait des disciples, il leur enseignait. Mais il y avait quelque chose au sujet du Seigneur Jésus qui a poussé les gens qui l'entendaient à croire qu'il mettait de côté la loi. Son mode de vie contredisait certainement les interprétations traditionnelles de la loi, ces interprétations des experts juifs. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ a passé beaucoup de temps à parler avec des femmes et il ne tenait pas compte de ce que les grands rabbins disaient et avaient écrit dans la Mishnah, qui est ce recueil de commentaires traditionnels de la loi. Il disait ceci, « Celui qui parle beaucoup avec les femmes fait tomber le mal sur lui. Il néglige l'étude de la loi et héritera finalement de la Géhenne. » Il passait aussi beaucoup de temps avec les pécheurs. Il partageait même un moment autour de la table avec eux. Il les acceptait. Il les considérait comme ses amis. Alors que les grands rabbins, toujours dans la Mishnah, disent « Éloigne-toi d'un mauvais voisin ». N'épouse pas les méchants. Pour les religieux, les hommes saints n'étaient pas censés dîner avec les pécheurs ou parler trop longtemps avec les femmes. Et le Seigneur Jésus-Christ a fait les deux. Et puis le Seigneur Jésus-Christ semblait aussi abroger certaines parties de la loi. Il a dit que maintenant tous les aliments sont propres, sont bons à manger. Il a guéri le jour du sabbat. Il a limité la liberté des hommes de divorcer de leurs femmes. Il a déclaré certaines personnes pardonnées, sans faire aucune référence au souverain sacrificateur, sans même considérer le temple. Mais à chaque fois, le Seigneur Jésus-Christ a ignoré les interprétations traditionnelles juives de la loi. Et dans notre passage, le Seigneur Jésus cite l'Ancien Testament à 6 reprises, mais il semble à chaque fois la corriger. Il dit « Vous avez entendu dire » seulement pour ajouter « Mais moi, je vous dis ». Il affirme avoir l'autorité ultime. Alors est-ce que le Seigneur Jésus-Christ s'oppose à la loi? Est-ce qu'il pensait qu'il devait la corriger? En réalité, non. C'est que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui est venu garder, accomplir la loi. Et lorsqu'on regarde attentivement notre passage, on voit que le Seigneur Jésus-Christ a violé les interprétations traditionnelles juives de la loi. Il n'a pas violé la loi elle-même. Il déclare au verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. » Le Seigneur Jésus-Christ a parfaitement compris la loi. Et parce qu'il l'a parfaitement comprise, il l'a expliquée, il a obéi parfaitement à cette loi. Et le Seigneur Jésus-Christ déclare qu'il est plus facile pour le ciel et la terre de passer que pour la plus petite lettre, un iota, de disparaître de la loi. La plus petite lettre, ce qu'on appelle un iota, c'est une lettre qui a la taille d'une virgule, très petite, qui peut parfois être omise sans que l'on perde le sens de la phrase, comme parfois le « e » qu'on ne prononce pas sous les formes féminines, par exemple. Ça ne change pas le sens de la phrase. Il dit « pas un seul trait de lettre disparaîtra ». Se réfère à un petit changement qui différencie deux lettres similaires, comme nos lettres minuscules « c » et « e » ne diffèrent qu'avec que par un trait, un seul trait horizontal. La parole de Dieu exprime les attributs mêmes de Dieu. Elle partage beaucoup de ses traits. Sa parole ne peut échouer, pas plus que Dieu ne peut échouer. De plus, aucune personne qui viole ou néglige même les plus petits commandements de la loi ne peut être grande dans le royaume des cieux. C'est ce qu'il dit au verset 19. L'engagement du Seigneur Jésus-Christ envers la loi et ses normes justes est un engagement qui est complet, qui est parfait. Et c'est pour ça qu'il dit à ses disciples, au verset 20, « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et c'est le deuxième point, « Dépasser la justice des scribes et des pharisiens. » Cette idée que notre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens exige une certaine clarification. On a tendance à penser qu'il est simple de dépasser les scribes et les pharisiens parce qu'ils étaient des hypocrites. Mais l'audience initiale du Seigneur Jésus-Christ considérait les scribes comme les interprètes les plus fidèles, les plus précis des Écritures. Il considérait les pharisiens comme ceux qui pratiquaient, ceux qui étaient pieux, qui cherchaient une piété, qui voulaient mettre en application l'Écriture. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ pourrait dire, à moins que votre justice ne soit plus grande que celle des experts, des professeurs de séminaires. Mais au fur et à mesure que le sermon sur la montagne progresse, on se rend compte que le Seigneur Jésus-Christ ne s'attendait pas à ce que ses disciples surpassent les scribes et les pharisiens à leur propre jeu. Il a plutôt redéfini la justice. Les scribes et les pharisiens ont cherché à codifier la justice, en prescrivant un comportement approprié dans les moindres détails, pour chaque situation prévisible. Par exemple, ils ont codifié, ils ont spécifié ce que le repos sabbatique devait être, en fixant des limites précises. Ils ont codifié jusqu'où on pouvait marcher, 1 000 mètres, 1 kilomètre, combien on pouvait écrire un mot, combien de mots nourriture on pouvait sortir de la réserve, une bouchée. Bien d'autres choses, sans être accusé de briser le sabbat. Et le Seigneur Jésus-Christ a contesté cette conception de la justice, une conception qui était légaliste. Et pour être clair, on peut distinguer trois sens au légalisme. La forme la première et la plus pernicieuse du légalisme tente d'atteindre ou de conserver le salut par les œuvres. Le légaliste, dans ce sens, va effectuer des œuvres pour gagner la faveur de Dieu. Et Dieu devient donc le patron, celui qui rémunère ceux qui font ces bonnes œuvres. La deuxième forme de légalisme va fabriquer de nouvelles lois qui sont basées sur la tradition ou sur la mauvaise interprétation des Écritures et qui va ensuite accorder à ces lois la force des Écritures elles-mêmes. Ce genre de légaliste peut interdire ce qui est permis, comme jouer aux cartes, regarder la télévision, où il peut exiger ce qui est conseillé. Par exemple, commencer la journée par la lecture de la Bible et la prière. Troisièmement, le légalisme peut signifier une consacration exceptionnelle sur la loi, sur l'obéissance, à l'exception de toutes les autres facettes de la vie par la foi. Et les scribes et les pharisiens étaient nombreux à être tombé dans ces trois formes de légalisme. Les disciples de Jésus ne peuvent pas dépasser les scribes et les pharisiens dans la réalisation de telles formes de justice. Ils ne doivent pas chercher à le faire. Le Seigneur Jésus-Christ a refusé d'offrir des prescriptions minutieuses de comportement qui font de la justice une relation à la loi, plutôt qu'une relation à Dieu. Le Seigneur Jésus savait très bien qu'aucun filet moral n'est assez bon pour attraper chaque question morale. Il s'est donc adressé au cœur, à l'esprit, ce qui motive l'obéissance. Il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ exige beaucoup de ses disciples, mais ses demandes ne sont pas essentiellement légal. Ces demandes précisent des buts et des attitudes plus que des actes particuliers pour des situations particulières. Aucune loi n'est assez complète pour bloquer tous les péchés. Les règlements ne peuvent pas contrôler le cœur pécheur. Et les instructions du Seigneur Jésus sont beaucoup trop brèves pour former un code juridique. Elles illustrent plutôt les voies d'un cœur qui est obéissant. Et donc nous surpassons les scribes et les pharisiens quand nous avons un cœur pour Dieu. Cette vraie justice se manifeste lorsque les disciples font les bonnes choses pour les bonnes raisons. Par exemple, certaines personnes, certains hommes se vantent d'être fidèles à leur femme, mais quand on apprend à les connaître, on se rend compte qu'ils sont fidèles parce qu'ils ont peur de se faire prendre. Certains hommes manipulent de grosses sommes d'argent avec fidélité, mais seulement parce qu'ils savent qu'il y a des vérificateurs, des contrôleurs qui sont compétents, qui vont les surveiller. Le monde est rempli de personnes qui n'ont jamais fait quelque chose de vraiment mauvais, simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, ou simplement parce qu'ils ont peur de se faire prendre. Le Seigneur Jésus attend de ses disciples qu'ils fassent les bonnes choses et pour les bonnes raisons. Non par crainte, non par calcul, mais par amour pour Dieu et par amour pour le prochain. Et puisque la motivation est aussi vitale que l'obéissance extérieure, les instructions que le Seigneur Jésus donne dans ces chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu sont en réalité assez brèves comparées au volume des commentaires religieux juifs sur la loi. Jésus ne propose pas de spécification exhaustive sur un comportement moral. Il va illustrer les pensées, les actions qui caractérisent le disciple. Idéalement, ces disciples trouvent une parfaite harmonie entre le comportement et la pensée. Trop de gens accomplissent de bonnes actions par la peur, par le calcul égoïste. Le Seigneur Jésus veut que ses disciples obéissent du fond du cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ va maintenant donner quelques exemples. Et c'est le troisième point. Le meurtre, la colère et le mépris. Et le Seigneur Jésus-Christ commence par réaffirmer la loi contre le meurtre. Verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. » Et la loi interdit le meurtre depuis longtemps. Les meurtriers sont passibles du jugement, non seulement devant les tribunaux des hommes, mais aussi devant le tribunal de Dieu. Et le monde en général aime bien cette interdiction de commettre le meurtre. Très peu de gens commettent le meurtre. La loi contre le meurtre offre une certaine protection. Mais le Seigneur Jésus-Christ va sonder les profondeurs du cœur, va sonder les profondeurs de notre affinité pour cette loi. Il va explorer les dispositions pré-meurtrières qui se trouve derrière l'acte. Les gens qui commettent des meurtres ne tuent pas par hasard. Qu'ils aient une rage vive ou une haine froide, qu'ils haïssent une personne, une race ou même toute l'humanité, les meurtriers sont en colère. Et si la haine mène au meurtre, alors la haine aussi est coupable, même si elle ne mène jamais à l'acte. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 22, « Moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. » Alors quelqu'un va se demander, mais est-ce que la colère est toujours mauvaise? N'y a-t-il pas de place pour une indignation morale qui soit juste? Si, bien sûr, il y a une place. Jésus lui-même a montré ce qu'était la colère juste. Il a jeté hors du temple ceux qui profitaient en changeant l'argent. Leur commerce rendait impossible aux païens de venir prier dans la cour du temple. Leurs taux de change ont fait un repère de voleurs. Il s'est mis en colère contre les hypocrites. Il est même devenu exaspéré avec ses disciples. Mais remarquez la nature de la colère du Seigneur Jésus-Christ. Il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Sa colère se mêlait au chagrin pour les péchés, pour tels que l'hypocrisie, l'incompréhension volontaire, l'incrédulité. Contrairement à nous, le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas mis en colère contre les mauvais traitements personnels. Il a été arrêté. Il a été raillé, battu, crucifié. Il est resté aussi calme qu'un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas réprimandé ses bourreaux ou offert une légitime défense. Non, il s'est tu. Sauf pour dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » L'apôtre Pierre écrit, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » 1 Pierre 2, verset 23. Le Seigneur Jésus-Christ s'est mis en colère pour le bien des autres. Il y a une colère qui est aimante, qui ne souhaite aucun mal, qui veut le bien. Notre colère est très souvent le contraire. Nous brûlons de colère contre des offenses mesquines à notre honneur. Nous crions sur les arbitres qui sifflent contre notre équipe préférée. Nous sommes offensés par des actes d'irrespect qui finalement sont des actes mineurs. Nous enrageons contre ceux qui nous font une queue de poisson dans la circulation ou qui passent quand le feu est rouge. Et je suis coupable de ça. Nous sommes prompts à la colère contre les offenses personnelles, mais nous sommes très lents quant au sujet des péchés qui offensent Dieu et l'humanité. Quand quelqu'un offense Dieu, peut-être en prenant son nom en vain, on se dit, finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre des pécheurs? Alors qu'on devrait être en colère. Bien entendu, il est bon de rester calme, mais il y a une place pour la colère juste, pour le chagrin au sujet du péché. Le psalmiste a plusieurs reprises, en différents passages, psaume 139, verset 21, par exemple, il dit ceci, « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi mes ennemis. » Psaume 19, verset 136, « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. » Mais en plus de la colère, le Seigneur interdit les insultes et le mépris occasionnel. Verset 22, que celui qui dira à son frère « raca », qui veut dire « stupide », mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la gêne. Les termes « raca » et « insensé » ne sont pas tout à fait identiques. « Raca » exprime le mépris de l'esprit de quelqu'un. Cela signifie « stupide »,« idiot »,« abruti ».« Insensé » exprime plutôt le mépris du cœur, de la personnalité de quelqu'un. Ça veut dire quelque chose comme crapule. Et si raca insulte le cerveau, insensé insulte le cœur. Et ensemble, il laisse entendre que quelqu'un est sans valeur, qu'il est bon à rien. Et donc, au niveau littéral, nous devrions éviter ces paroles méprisantes, mais nous devrions aussi éviter tout soupçon de condescendance. Ne doit jamais traiter personne, jeune ou vieux, faible d'esprit ou faible de corps, comme s'il n'avait aucune valeur. Et le Seigneur Jésus dit que quiconque viole ce principe est passible de jugement devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, rappelez-vous, c'est la plus haute cour d'Israël. Qui plus est, le mépris nous expose aussi à la cour même de Dieu. Le grec dit littéralement « la géhenne du feu ». La géhenne était ce tas de déchets qui fumait dans une vallée en dehors de la ville de Jérusalem. Les méprisants sont passibles du jugement ardent, brûlant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas dire qu'une insulte obtient un certain niveau de punition et qu'une autre obtiendra une peine plus sévère. Non, il dit que la colère et le mépris sont des choses qui sont dans le cœur, qui peuvent conduire au meurtre. Ce sont des formes de meurtre et ils méritent la punition du meurtre. Comme le dit l'apôtre Jean en 1 Jean 3, verset 15, « Celui qui, quiconque est son frère, est un meurtrier. » Derrière le meurtre se trouve le jugement que quelqu'un qui nous a déçus ou nous a fait du tort mérite de mourir. Si raca veut dire idiot, insensé veut dire bon à rien, alors la plupart d'entre nous sont des meurtriers. Presque tout le monde a jugé quelqu'un comme étant un idiot. Veillons donc à ce que nous disons, veillons donc à ce que nous pensons, parce que Dieu a montré autre chose. Il ne nous a pas considérés comme des bons à rien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et en Christ, il nous a fait ses enfants d'adoption. Et cela par grâce. Il n'y a aucune place pour le mérite. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne pouvons pas considérer les autres comme étant des bons à rien. On a suivi le Seigneur Jésus-Christ qui souligne le mal du cœur et d'une langue qui méprise les autres, mais on doit aussi ajouter un esprit meurtrier qui peut conduire à l'action. Aujourd'hui, le monde défend l'avortement parce qu'il juge un être humain, un être comme étant sans valeur. Les hommes, les femmes de ce monde décident qu'ils seront plus heureux si cet enfant, un être, était mort. Et de la même façon, le monde défend l'euthanasie pour les malades et les personnes âgées pour la même raison, parce qu'il les considère comme étant sans valeur. Et bien entendu, il n'y a aucune vertu à prolonger le processus de la mort, aucun bénéfice dans les machines qui maintiennent le battant du cœur et font respirer le poumon une fois que le cerveau a cessé de fonctionner. Mais on doit prendre le plus grand soin dans l'évaluation de tel cas, de peur de faire un mauvais jugement, de penser qu'une vie n'a aucune valeur, il ne vaut pas le coup d'être préservée. Et parce que la pensée « il est sans valeur » peut conduire au meurtre, elle est susceptible du jugement, même si l'action ne suit jamais. Et on pourrait rajouter toutes sortes de choses qui rentreraient dans cette case des personnes qui sont pauvres, des personnes qui meurent de faim. Il y a effectivement un danger de donner sans fin, mais parfois on néglige les pauvres parce qu'on les juge sans valeur. Veillons donc non seulement à nos paroles, mais aussi à nos pensées. Quatrième point, faire la paix avec un frère. Le Seigneur Jésus-Christ interdit le meurtre lui-même, mais aussi la haine, le mépris qui tue l'esprit des autres et qui conduisent potentiellement au meurtre, à l'avortement, à l'euthanasie. Mais ensuite, il dit que nous ne devons pas simplement nous abstenir nous-mêmes de la violence, mais faire la paix avec les autres afin d'apaiser leur colère et leur mépris. Regardez la structure de ces versets 21 à 26. D'abord, le Seigneur Jésus-Christ approuve l'ancien commandement. Il interdit l'acte de meurtre, verset 21. Ensuite, verset 22, il ajoute que la colère et le mépris sont aussi des meurtres. Et ensuite, il dit qu'un esprit est responsable de prévenir les actes, les attitudes meurtrières d'un frère dans la foi, verset 23-24. Et enfin, il dit que les disciples doivent même s'efforcer d'empêcher la colère chez leurs ennemis, versets 25 et 26. Il est facile de mal interpréter les versets 23 et 24. Ça vaut la peine de les relire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et parfois les chrétiens, nous disons, oui, je sais que j'ai un problème avec mon frère et je dois aller le voir et trouver une solution. Et c'est bien, et c'est vrai. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Il ne dit pas, si tu as quelque chose contre ton frère, va. Mais si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. L'expression « si donc » indique que le verset 23 tire une conclusion des versets 21 à 22, et le raisonnement va dans ce sens. S'il est bon pour nous de nous abstenir de meurtres et d'attitudes meurtrières, alors il est aussi bon de prévenir les attitudes meurtrières chez les autres, dans la mesure du possible. C'est-à-dire que nous devrions aimer nos frères et sœurs suffisamment assez pour agir, pour supprimer leurs dispositions meurtrières. Le Seigneur Jésus dit que ce devoir est si important qu'un adorateur doit interrompre le devoir sacré de présenter une offrande à Dieu sur l'autel pour faire la paix. Aujourd'hui, il est plus important de se réconcilier avec un frère, avec une sœur, avant d'aller au culte, avant d'aller à l'église. Car le culte serait une imposture si quelqu'un a de la haine pour son frère. Remarquez que le Seigneur Jésus-Christ ne dit même pas que le frère a raison d'être offensé. La colère peut être juste, elle peut être raisonnable, ou elle peut ne pas l'être. Nous avons peut-être offensé, ou alors il a peut-être été offensé sans raison valable. Mais même si nous nous voyons innocents, si nous considérons que le problème est trivial, qu'il est sans importance, si suffisamment de tensions existent pour que nous en souvenions et que cela nous trouble, nous devrions nous arrêter dans ce que nous faisons et aller chercher le frère et la sœur pour trouver la réconciliation. Le Seigneur Jésus-Christ va encore plus loin, et c'est le cinquième point, faire la paix avec un adversaire. Le Seigneur interdit le meurtre, l'acte de meurtre, verset 21. Il interdit les attitudes qui nous conduisent à commettre un meurtre, verset 22. Il nous ordonne de chercher la paix avec un frère en colère, versets 23 et 24. Et maintenant, il nous ordonne d'éliminer la colère chez un adversaire. Et dans son illustration, dans les versets 25 et 26, le Seigneur Jésus imagine un ennemi qui traîne un disciple devant les tribunaux pour un problème d'argent. Il a une dette impayée, ou du moins c'est ce que l'adversaire pense. Aussi fâché que deux personnes le sont habituellement lorsqu'elles invoquent les autorités légales, les unes contre les autres, les disciples doivent essayer de faire la paix. Même sur les pas marches du palais de justice, même à la dernière minute. Fais la paix avec ton prochain, dit le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quelque chose que notre société procédurière doit entendre. Nous devons nous surveiller, nous devons faire attention à la façon dont nous insistons sur nos droits. Nous devons nous surveiller pour voir si nous gardons la colère, si nous pansons nos blessures ou si nous préparons la vengeance. Et cela s'applique à tous ceux que nous rencontrons, que ce soit un frère bien-aimé, une sœur bien-aimée, ou que ce soit un ennemi juré. Faites la paix si vous le pouvez, dit le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez offensé quelqu'un, ou si la personne a été vexée d'une manière bête. Bien entendu, une personne toute seule ne peut pas faire la paix. L'apôtre Paul écrit en Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et il concède que ça peut être impossible si quelqu'un refuse notre plaidoyer pour la paix. Mais nous devons essayer. Pour faire la paix, nous devons assumer la responsabilité de nos erreurs. Dans un conflit, nous pouvons toujours assumer la responsabilité de la part de notre part du problème. Si la plupart de la faute est avec l'autre personne, notre confession peut aider, peut libérer la personne à reconnaître sa faute. Et même si un autre parti refuse de se joindre à notre quête de paix, nous pouvons nous excuser pour notre part, faire amende honorable. Sur le plan pratique, le rétablissement de la paix fonctionne toujours mieux en personne plutôt que par un écrit. La personne en face de nous peut voir notre voix, notre visage, entendre notre voix, qui peut transmettre l'espoir, l'amour, la sincérité. Que dire pour terminer? Le commandement « Tu ne tueras point » semble si simple. Il est familier, il nous protège, et extérieurement du moins, il est facile à observer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi, pour révéler la signification complète de la loi. Et celle-ci inclut que nous devons abandonner la rage et le mépris. Nous devons rechercher la paix, être pacifiques, faire la paix avec nos frères, nos sœurs, avec nos ennemis, avec tous ceux que nous offensons et avec ceux qui sont offensés à tort. La volonté du Seigneur Jésus-Christ est très claire. Et sa clarté devient un problème. Parce que nous ne pouvons pas suivre sa volonté. Nous nous mettons toujours en colère. Nous hésitons à guérir les relations brisées. La parole du Seigneur dépasse nos capacités. Mais il y a une bonne nouvelle. Ce même Jésus qui donne ses commandements bénit aussi ceux qui sont pauvres en esprit. Il déclare heureux, bénis ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas obéir, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Ce même Jésus qui donne ses commandements est celui qui a donné sa vie en rançon pour les disciples qui ne peuvent pas obéir à ses commandements. Mais mieux encore, le Seigneur Jésus-Christ nous donne sa grâce. Il nous donne ce pouvoir. Il envoie son Esprit Saint en nous qui nous donne la capacité de commencer à lui obéir. Notre obéissance sera toujours imparfaite, oui, mais nous pouvons avancer, nous pouvons faire des progrès. Nos progrès sont très lents. Mais le Seigneur Jésus-Christ travaille dans nos cœurs. Dieu a commencé en nous une œuvre qu'il rendra parfaite pour le jour de Christ. Et par sa grâce, il nous transforme pour que nous ressemblions toujours plus à l'image de son Fils, avec un cœur qui soit pour Dieu et pour lui seul. Que Dieu nous aide à méditer ces choses. Et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.